La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
La création du revenu minimum d'insertion constitue ce que je pense les historiens reconnaîtront comme une véritable révolution dans notre droit social. Chacun sentait, sans même pouvoir évaluer approximativement le nombre de ces nouveaux pauvres, qu'une société scandaleusement inégalitaire se mettait en place et qu'il y avait là un immense défi à relever.
La voix de Michel Rocard dans La Marche du Monde. Le Premier ministre de François Mitterrand a porté devant l'Assemblée nationale le projet de loi pour la création du premier revenu minimum d'insertion, le RMI.
Et ce fut l'engagement du président de la République, dans sa lettre aux Français, de proposer la création d'un revenu minimum destiné à ce que, permettez-moi de le citer, un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien.
Voté à l'unanimité par le Parlement français le 30 novembre 1988, le RMI est le droit pour tout citoyen d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. C'est une victoire historique pour la démocratie et l'aboutissement d'un long combat politique et associatif. C'est aussi la réalisation d'un projet pour la dignité humaine, d'abord initié et défendu par les familles les plus pauvres, porté par le mouvement ATD Quart-Monde, fondé par le père Wresinski en 1957. Pour le peuple de la misère, le RMI n'est plus une utopie.
Le RMI, pour moi, ça a tout changé dans ma vie. Ça m'a enlevé une humiliation, surtout. Ça m'a permis de relever la tête. Ça m'a permis de me dire, je sais que je peux payer mon loyer, mon EDF, que je peux acheter à manger, que je peux... C'est toujours la bouée de sauvetage. Le RMI m'a apporté une garantie que tous les mois, j'aurai de l'argent pour les nourrir. Que mes enfants, ils puissent... Franchement, l'espoir, c'était celui-là. C'était que mes enfants, ils puissent avoir une vie autre que celle que moi, j'avais. Avoir une vraie vie d'enfant et pas une vie de galère. Mes espoirs, c'était pouvoir relever la tête et de plus être obligé d'aller pleurer misère à droite, à gauche pour avoir des aides.
Le Quart-Monde entre dans l'histoire. C'est notre documentaire en deux épisodes écrit avec Marion Lefebvre et mis en onde par Elliot Bourrel. Après, les pauvres prennent la parole. Diffusé la semaine dernière, je vous propose d'écouter la suite. Les pauvres luttent pour leurs droits sur RFI.
C'est la première fois qu'un rapport, n'est-ce pas, voté par l'ensemble, n'est-ce pas, des partenaires sociaux d'un pays, eh bien, reconnaît que la grande pauvreté, n'est-ce pas, est un déni des droits de l'homme et que lutter contre la grande pauvreté, c'est une priorité nationale et que l'assistance doit faire place, n'est-ce pas, à l'application des droits de l'homme. C'est la première fois.
Retour sur l'année 1987, année du rapport Wresinski, publié à la demande du Conseil économique et social, où le père Joseph siège depuis 1979. Le rapport préconise une solution universelle, défendue par ATD depuis de nombreuses années, la création du revenu familial minimum. Il s'agit de permettre aux familles en grande précarité de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, se nourrir, se vêtir et retrouver l'estime de soi. Une étape indispensable à la promotion sociale, le rapport Wresinski est un véritable coup de tonnerre pour les institutions de la République, car l'État ne peut plus opposer qu'il n'a pas de chiffres. En France, 5e puissance mondiale, 4% de la population, soit 2,5 millions de personnes, sont en situation de grande pauvreté.
J'ai présenté au chef de l'État ce rapport. Il a été très satisfait du travail que a entrepris le Conseil économique et social. Il en a été fier. Et bien entendu, 2 500 000 français qui manquent de couverture sociale ou de ressources suffisantes ont été pour lui un choc tout de même. C'est un chiffre qui étonne un peu tout le monde, hein, quoique ce soit encore un chiffre incertain et imprécis, parce que malheureusement nous n'avons pas les moyens de connaître réellement la situation. D'autre part, il a été très très sensible à ce que les conseils économiques et sociaux reconnaissent que la grande pauvreté n'est pas question d'assistance, mais une question de droit de l'homme, et que donc par conséquent c'est dans le cadre d'une loi d'orientation et dans une volonté nationale de détruire la misère que notre combat doit se continuer.
Et c'est sur le terrain de l'emploi que le combat doit se poursuivre. Le principe du RMI, c'est qu'il vient s'additionner aux revenus déjà existants. C'est un plancher de ressources. Il s'agit de favoriser l'insertion par le travail, une préconisation prise en compte dans le projet de loi du RMI. Après l'avoir présenté au président français, Brzezinski défend son rapport devant les Nations Unies. C'est la première fois que la misère est formulée en termes de violation des droits humains, et contre cette violation, le Quart Monde appelle à des politiques globales de lutte contre la misère et l'exprime sur RFI.
La France est le seul pays qui se soit préoccupé d'aussi près de la grande pauvreté.
D'aussi près et qui ait abordé la grande pauvreté, n'est-ce pas, hein, au niveau des droits de l'homme. Hein. En général, aux États-Unis, en Angleterre, n'est-ce pas, dans les pays d'Europe, au fond, tout ce qui concerne la pauvreté relève de l'assistance. Et en France, désormais, ce n'est plus une histoire, n'est-ce pas, de soupe populaire, de banque alimentaire, n'est-ce pas, de logement précaire. C'est devenu vraiment l'objet d'une loi d'orientation, hein, au niveau des droits de l'homme, hein, dont tous les Français devront travailler à l'application. Moi, je viens ici des États-Unis.
Ah oui, vous avez vu le secrétaire général des Nations Unies.
C'est ça, le secrétaire général des Nations Unies. Et il m'a tenu le même langage que Mitterrand. Il m'a dit ceci, au fond, il faut absolument que tous les hommes de bonne volonté se rassemblent et se mettent ensemble vraiment pour lutter contre la misère, parce que la misère est un non-sens aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la société qui est la nôtre.
Nous sommes le 17 octobre 1987. ATD Quart Monde fête ses 30 ans en place du Trocadéro à Paris. Fort de ses 300 volontaires engagés avec les plus pauvres à travers toute l'Europe, mais aussi en Asie et maintenant en Afrique, le mouvement est devenu une référence internationale. Ancienne résistante et déportée, Geneviève de Gaulle-Antonioz en assume la présidence depuis 1964. Son engagement contre la déshumanisation des plus pauvres qu'elle a connue chez les déportés est totale.
Quand on veut honorer, rendre hommage aux victimes de la misère et de l'exclusion sociale, à ceux qui sont toujours oubliés, toujours rejetés, eh bien, je crois qu'il faut le faire avec éclat. Vous savez, les gens qui d'habitude sont reconnus, on n'a pas tellement besoin de les célébrer. D'abord, souvent, ils s'en chargent eux-mêmes. Mais ceux qu'on a toujours, toujours laissés dans l'oubli, dans l'humiliation, pour cela, il fallait quelque chose de beau et d'éclatant.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
No. Je témoigne de vous, mère, dont les enfants condamnés à la misère sont de trop en ce monde. Je témoigne de vos enfants tordus par les douleurs de la faim, n'ayant plus de sourire, voulant encore aimer. Je témoigne de ces millions de jeunes qui, sans raison de croire et d'exister, cherchent en vain un avenir en ce monde insensé. Je témoigne de vous, pauvres de tous les temps et encore d'aujourd'hui, happés par les chemins, fuyant de lieu en lieu, méprisés et honnis.
Temps de lutte pour obtenir la reconnaissance de la pauvreté comme une violation des droits humains, c'est ce que le père Vrezinski et les militants d'ATD rappellent en 1987, rejoints par plus de 50 associations. Des délégations venues de toute l'Europe remplissent le parvis du Trocadéro, rebaptisé Parvis des droits de l'homme, du citoyen et des libertés.
Ce qui m'a frappé, d'abord, c'est l'unité. Unité de ton, l'unité d'existence. Les pauvres sont les mêmes partout.
Devant une centaine de milliers de personnes rassemblées, le quart monde se raconte par lui-même dans un immense spectacle Son et Lumière, mis en scène par Jean-Michel Defromont et organisé par Henri Segalstein.
J'ai fait le tour des groupes ATD Quart Monde, beaucoup en France bien sûr, en Belgique, en Suisse, en Hollande. On a fait des brainstorming, on leur a demandé ce qu'ils voulaient mettre dans un événement de ce genre. On leur a dit on va faire un grand truc pour le 30e anniversaire, aussi pour faire un cadeau au père Vrezinski. Donc à partir de ce qu'ils avaient dit, on a nous conçu un scénario qui était... Le quart monde veut entrer dans la ville, demande à entrer dans la ville. Sur la terrasse, c'était la ville. En bas, depuis la tour Eiffel et le long des fontaines, c'était le quart monde qui arrivait. Non pas les familles, mais tous les amis d'ATD. Tous ceux qui venaient donner un coup de main toute l'année, régulièrement, qui travaillent auprès des familles de façon bénévole. Et tous ces gens-là ont figuré le peuple. Le peuple du quart monde, et sont venus. Alors ils passaient sur un podium sous la tour Eiffel, et puis ils traversaient le pont, et ils avançaient jusqu'à la ville. Et à la fin de ce dialogue, et la ville s'ouvrait bien sûr, et à la fin, tout le monde, tout le monde, a sorti de sa poche un foulard en or qui a été agité. Ça a été un moment d'émotion tout à fait extraordinaire.
Quelles que soient ces chaînes dans le cœur, de chaque homme est écrit le mot liberté.
C'était des milliers de gens qui se portaient les uns les autres. C'était un enthousiasme, mais profond. C'était pas une expression extérieure. C'était quelque chose de fort, d'immédiat, de riche. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie.
Les 30 ans d'ATD, c'est aussi la célébration d'une victoire politique pour le quart monde, celle du projet de loi d'un revenu minimum initié par le rapport Vresinski, une solution expérimentée par ATD dès 1985 pour des hommes et des femmes disqualifiés par les services sociaux. Écoutez les voix de celles qui ont accepté de témoigner de leurs difficultés pour le mouvement.
Une fois, j'étais pour avoir la pension de mon mari. Pendant 2 mois, je ne l'ai pas eu. C'est la personne du quart monde qui s'est dû s'en occuper. Parce qu'à chaque coup, il demandait un papier. Et que tous mes papiers étaient faits, régulièrement. Parce que je sais quand même qu'est-ce qu'il faut comme dossier. Deuxièmement, une fois, j'ai été aussi pour avoir un secours parce que je n'avais pas touché encore une fois la pension de mon mari. On m'a dit comme ça, moi j'ai des enfants à nourrir, on m'a dit comme ça, vous n'avez pas besoin de les faire.
Vous avez combien d'enfants?
J'en ai 2, et j'ai le 3e en route. Est-ce que c'est des paroles à dire? D'après vous, c'est pas des paroles à dire, je crois.
Oui, ben moi j'ai pas beaucoup pour vivre, j'ai 21 000 d'allocations orphelins, et j'ai 400 francs d'aide à l'enfance, je suis seule avec une petite fille qui a 14 ans. Je n'ai pas d'électricité depuis 78, on m'a coupé l'électricité, on m'a coupé l'eau, je suis sans soins, ma fille également. Je n'ai pas le droit à l'aide médicale, pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai le droit absolument à rien du tout. 18 francs de bon de chômage par semaine pour 2, c'est tout.
Vous êtes toute seule avec votre enfant?
Je suis seule avec une fille de 14 ans. Et depuis 13 ans, je suis seule avec elle. Et certainement qu'ils espèrent retrouver le père pour payer une pension ou quelque chose. Mais enfin, j'ai le droit à rien. Qu'à 18 francs de bon de chômage par semaine pour 2.
Lors de la campagne présidentielle d'avril 1988, François Mitterrand reprend l'idée du revenu minimum garanti qu'il nomme déjà RMI dans sa lettre à tous les Français. C'est une victoire pour ATD Quart Monde, dont les militants reprennent le combat du père Joseph, décédé 2 mois plus tôt des suites d'une intervention chirurgicale.
Au-delà de leur grande peine, les familles du Quart Monde, les alliés, les volontaires du mouvement ATD Quart Monde voudraient partager avec vous tous leur volonté de poursuivre l'engagement du Père Joseph, de nous rassembler tous autour des plus pauvres pour détruire la misère. Plus que jamais, tous ceux d'ATD comptent sur l'amitié active de tous pour continuer. Pour refuser l'oubli de la misère, nous nous rassemblerons, comme le souhaitait le Père Joseph, le 17 de chaque mois, à 18h, sur le parvis des libertés et des droits de l'homme au Trocadéro.
Élu pour un second mandat, le président Mitterrand honore son engagement de campagne dès novembre 1988. Et c'est historique, le RMI est voté à l'unanimité. Ils sont 410 000 Français à le toucher dès la première année et 910 000 5 ans plus tard. Marie-France Zimmer est l'une des toutes premières allocataires. Pour elle, il y a un avant et un après.
La galère avant le RMI, c'était un squat sans chauffage. Avec 2 jeunes enfants, hein, ils avaient 5 et 3 ans. Le RMI, il a changé ça. J'ai eu un logement, un tout petit logement, mais on avait une chambre, on avait de quoi chauffer, on avait à manger régulièrement dans l'assiette. Je pouvais leur donner du lait, je pouvais leur donner du pain, même si quelquefois c'était que ça, au moins on avait ça. Avant, c'était on mangeait froid. On a eu des coupures d'électricité, par exemple. Et ma fille, elle était petite, et elle disait, la seule chose, c'était pas de vivre dans le noir, c'était d'avoir froid. Et on a vécu ça, le froid. Ça a été ça pour nous. Avoir un toit sur la tête, ça a beaucoup, beaucoup changé de choses.
Écoutez l'analyse de Bruno Couder, alors délégué national d'ATD Quart Monde.
La France franchit là une étape formidable. Dans la conscience que ce n'est pas par des mesures d'urgence seulement qu'on va agir contre la grande pauvreté, qu'il faut bâtir un certain nombre de droits. Et alors là, on franchit l'étape du droit à un revenu minimum, et puis en même temps, on met le droit à l'insertion. Mais moi, je vous dis clairement, et c'est notre expérience, que si on s'arrête là au niveau des droits, ça ne suffira pas.
Écoutez RFI, la marche du monde.
À partir du moment où Atédekwar Monde a commencé à agir en Europe, en France en particulier, pour l'éradication de la pauvreté, je pense qu'il était normal que Atédekwar Monde étende son activité vers les pays en développement. Et c'est ce que le père Brzezinski a fait à partir de 1981, si je me souviens bien, en ce qui concerne l'Afrique notamment.
La voix de Amadou Matarumbo dans La Marche du Monde, directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987. Il travaille avec de multiples ONG pour la promotion de l'éducation, de la culture et des sciences au service du développement. Tout comme le père Brzezinski, fondateur du mouvement ATD, Amadou Matarumbo est issu de la grande pauvreté. Et comme le père Brzezinski, il a consacré toute sa vie à lutter pour les droits des plus démunis.
Nos relations ont été d'autant plus étroites à cette époque-là que le père Joseph Brzezinski n'a pensé à Atédekwar Monde qu'à travers l'expérience qu'il avait eue lui-même. Il a frôlé la pauvreté, il a su ce qu'était la pauvreté. Et moi-même, j'avais eu l'expérience étant au Sénégal. J'avais quand même vécu en milieu rural et connu les conditions difficiles dans lesquelles vivaient les paysans. Et je crois que c'est à partir de nos entretiens que l'idée lui est venue de s'étendre vers le tiers-monde. À l'UNESCO, le droit à l'éducation nous paraissait être un droit fondamental. Et là, nos points de vue rejoignaient les points de vue du père Brzezinski, qui d'ailleurs disait qu'il fallait la dignité pour tous. Et la dignité pour tous passe par la satisfaction du droit à l'éducation.
À partir de 1979, Atédekwar Monde s'internationalise. Le mouvement qui est né à Noisy-le-Grand dans un bidonville va créer plusieurs branches au Guatemala, en Thaïlande ou encore au Sénégal. Mais l'initiative de s'engager dans ces pays en développement vient des volontaires eux-mêmes, comme l'évoque Gabrielle Herpicom. Elle est alors assistante du père Joseph.
Nous sommes à l'Université populaire, dans une cave à Paris. La séance s'est terminée, et puis timidement, quelqu'un lève la main et dit « Moi, j'ai quelque chose. » Et cette maman dit au père Joseph « Écoutez, voilà, nous avons la télévision chez nous. » Et là, je regardais, et puis je voyais des gens sur la route qui marchaient avec leurs ballots. Et nous, on a connu ça. On a aussi eu des moments où on est parti avec nos ballots et toutes nos affaires. C'est à la frontière du Cambodge. « Alors, père Joseph, qu'est-ce que vous faites pour ça ?» Grand silence, puis il reprend et dit « Mais madame, pourquoi père Joseph, qu'est-ce que vous faites ? Il faudrait dire que faisons-nous tous ensemble. Quand vous rentrerez dans vos cités, vous allez parler avec les volontaires et vous allez demander que pourrions-nous faire, quelles responsabilités nous pourrions prendre. » Et quelques jours plus tard, nous avons eu un appel de Noisy où les familles ont demandé à une volontaire qui était infirmière d'arrêter son activité et de partir en leur nom à la frontière du Cambodge. Ça a retourné notre projet de départ, mais on s'est dit qu'il faut le faire. C'est une demande des pauvres eux-mêmes. C'est eux qui l'ont pensé parce qu'ils ont vécu des situations si difficiles. Et nous ne pouvons pas contourner le problème.
Mais comment étendre le mouvement à l'international sans imposer nos attentes d'occidentaux ? C'est la question centrale au sein de l'Université populaire. Écoutez le témoignage de cette volontaire. Elle revient alors de mission.
Moi, ce que je retiens, c'est que, en fait, au niveau du volontariat et de notre engagement, je suis de plus en plus convaincue que quand on a le quart monde vrillé au corps, on peut porter ce message partout à travers le monde. Pour moi, ça s'est vérifié de façon encore plus forte au cours de ce voyage. Donc, nous sommes allés dans 4 pays. Au Sénégal, nous avons particulièrement rencontré des personnes à Dakar et puis dans un village de Brousse à Bamba. Ensuite, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Bénin, nous sommes allés en Haute-Volta. Et partout, nous avons senti que le Carmon nous avait quand même confier au fond son essentiel, et que cet essentiel allait passer partout à travers le monde.
Il y a une alliée de Reims là, qui nous écrivait un jour comme ça, qu'au fond, c'est ça, Will Carmond est un alibi pour vous étendre et pour, au fond, créer une sorte d'impérialisme, une sorte d'esprit de conquête. Personne ne nous a demandé d'aller en Afrique.
Personne ne nous a demandé d'aller en Afrique, s'interroge le père Wresinski. Une question souvent débattue avec son ami Amadou Matarumbo, alors directeur de l'UNESCO et plusieurs fois ministre au Sénégal.
ATD Carmonde, c'est un mouvement qui insiste beaucoup sur la solidarité. À partir du moment où ATD Carmonde a commencé à agir en Europe, en France en particulier, pour l'éradication de la pauvreté, je pense qu'il était normal que ATD Carmonde étende son activité vers les pays en développement. Et c'est ce que le père Brzezinski a fait à partir de 1981, si je me souviens bien, en ce qui concerne l'Afrique notamment.
Mais en ce qui concerne l'Afrique, est-ce que ça ne pouvait pas être perçu à l'époque par justement les Africains comme une attitude néocoloniale ou impérialiste?
Non, je ne crois pas. Tout dépend de la façon dont on aborde les choses. Je pense que les Africains sont très sensibles à ce que des gens viennent de l'extérieur pour compatir non seulement à leur sort, mais pour les aider en s'efforçant d'abord de connaître leurs problèmes et en essayant de s'impliquer dans des actions qui améliorent leurs conditions. Je pense que les Africains ne le refusent pas.
Autre témoignage, celui de l'ancien procureur de la République de la Côte d'Ivoire, Anoman Jean-Baptiste Ogoué, connu pour avoir dénoncé les conditions de détention des prisonniers à Abidjan ou à Boaké. Il explique devant les volontaires d'ATD pourquoi il a choisi de rejoindre le père Wresinski à la fin des années 70.
Le père Joseph ne m'a jamais demandé de venir au mouvement. Il m'a parlé très longuement, à plusieurs reprises, de son mouvement, de ses voyages à travers le monde, de ce qu'il faisait, des difficultés qu'il rencontrait. Voilà comment que j'ai trouvé un compagnon. Je suis arrivé dans votre mouvement qui est devenu notre mouvement.
En 1979, c'est aussi l'année internationale de l'enfant lancée par les Nations Unies. Une initiative mise à profit par ATD pour organiser des grands congrès afin de rassembler des experts autour de la misère. Car la misère est une violation des droits humains dont les Nations Unies se portent justement garant.
Good afternoon.
Bonjour.
20 years ago, in 1959, representatives of 126 countries signed the Universal Declaration of the Rights of the Child.
Il y a 20 ans, en 1959, les représentants de 126 pays ont signé la Déclaration universelle des droits de l'enfant.
Which guaranteed to every child the means to live happily in his family.
Elle garantissait à chaque enfant les moyens de mener une vie heureuse en famille et d'apprendre ce dont il avait besoin pour devenir adulte et concevoir un futur pour ses propres enfants.
But now, 20 years later, these rights are not granted to everyone.
Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, tous ne jouissent pas de ces droits. Dans chaque pays, des millions d'enfants vivent toujours dans la misère. Certains, avec leur famille, souffrent et n'ont accès ni à l'eau, ni à la nourriture, ni aux soins médicaux ou au logement. Tous ces enfants grandissent sans avoir appris un métier et le plus souvent, sans même avoir appris à lire et à compter.
Quand je vois mes copains qui passent devant chez moi, je demande qu'est-ce qu'ils pensent et je me cache parce que j'aurais bien trop honte. Il y en a beaucoup qui m'invitent à leur anniversaire. J'ai dit non, je voulais pas y aller. Je sais qu'ils peuvent pas venir chez moi et moi non plus je pourrais pas aller chez eux. C'est ça que je pense.
Pour mettre un terme à une telle injustice, les adultes organisent de nombreuses conférences à travers le monde pour assurer des relations pacifiques entre les différents pays et travailler à faire des enfants du monde entier des enfants libres et heureux. Puis, en 1992, la prophétie du père Brzezinski se réalise. Les Nations Unies votent enfin l'instauration d'une journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, suite à la demande incessante d'ATD depuis 1987. Ce sera le 17 octobre, date anniversaire de la création du mouvement.
Ils habitent dans une décharge en Amérique centrale, dans des cimetières en Asie du Sud-Est. En Europe, on les sépare de leurs enfants quand ils ne peuvent plus les nourrir. Pourtant, ils ne se résignent pas. Dimanche 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, une journée pour aller au-delà de l'urgence. Le 17 octobre, les plus pauvres prennent la parole, écoutons-les.
Si la journée du refus international de la misère offre bien une visibilité pérenne à la lutte contre la grande pauvreté, est-ce pour autant suffisant? Écoutez le point de vue de notre grand témoin, Amadou Matarembo. Il a œuvré pour le rapprochement entre l'UNESCO et l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine.
Si cette journée permet de sensibiliser le monde entier sur les problèmes de la pauvreté, si cette journée suscite des élans de solidarité dans le monde entier, je pense qu'elle est bonne à organiser. Mais je ne pense pas qu'une journée simplement d'éradication de la pauvreté suffise à éradiquer la pauvreté dans le monde. La pauvreté demande des actions précises dans des domaines précis. Je pense que pour éradiquer la pauvreté, le problème essentiel dans les pays en développement à l'heure actuelle, c'est le problème de la sous-productivité du travail et du travail agricole en particulier. Vous savez, nous sommes à l'heure actuelle un peu plus de 7 milliards de personnes dans le monde. Nous serons 9 milliards, dit-on, à l'an 2050, ce qui veut dire qu'il faudra nourrir 2 milliards d'individus de plus. Et déjà, on n'arrive même pas à nourrir les 7 milliards qui sont sur la Terre. C'est possible de les nourrir, à condition qu'on utilise les données de la science et de la technologie moderne dans tous les domaines d'activité dans les pays en développement, et dans l'agriculture en particulier.
Alors que la question de la grande pauvreté est enfin entrée à l'agenda de toutes les grandes institutions internationales, ATD ne relâche pas la pression sur les partis politiques en France. Si la victoire historique du RMI, obtenue en 1988, apporte un revenu minimum aux familles les plus pauvres, il ne propose pas une réponse globale, comme le préconisait le rapport Brzezinski. C'est la désillusion.
Ma désillusion sur le RMI, ça a été sur le I. Le I d'insertion. Moi, j'étais voir l'assistante sociale, la personne qui s'occupait de mon dossier RMI, elle disait que c'était revenu minimum d'insertion. Insertion. Je veux du travail. Je veux que vous m'aidiez à en trouver. Je veux que vous m'aidiez à m'en sortir. Je ne demande pas la manche. Je veux avoir un travail. Je veux avoir quelque chose à faire. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que vous vous plaignez? Vous touchez de l'argent, restez chez vous. Aujourd'hui, le RSA, c'est actif. Et on ne peut pas être actif dans une société qui ne veut pas que vous y soyez.
Selon les chiffres de l'Observatoire des inégalités, le bilan est amer. Le nombre de Français sous le seuil de la pauvreté augmente à nouveau au début des années 1990. Et pour ATD Quart-Monde, l'enjeu c'est de fédérer les ONG pour interpeller les candidats à la présidentielle. À quand une loi globale d'orientation contre la misère ?
En pleine campagne présidentielle, une voix très symbolique s'élève pour demander que l'aide aux exclus soit l'objectif principal des candidats. Cette voix, c'est celle de Geneviève de Gaulle, nièce du général, ancienne résistante et présidente aujourd'hui de l'association ATD Quart-Monde. Elle interpelle directement chaque candidat. Écoutez.
Je lui demande d'abord s'il accepte de s'engager à détruire la misère et à la considérer cette destruction comme une priorité nationale. Deuxièmement, je lui demande si dans cette entreprise qui va être longue et difficile, il accepte de prendre les plus pauvres comme partenaires. Et ma troisième question est celle-ci. Je leur demande également de fixer devant le Parlement les grandes lignes d'une loi d'orientation qui permette ensuite de prendre des mesures concrètes pour détruire la misère.
Pour la campagne présidentielle de 1995, nous l'avons abordée en nous y étant préparés à l'avance. Presque 2 ans avant, des contacts avaient été pris pour qu'un certain nombre d'associations se rencontrent, le Secours catholique, Emmaüs, le Secours populaire, la Fédération des centres d'hébergement, etc. Et donc on a constitué un collectif, qu'on a appelé le collectif Alerte, pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle. La constitution de ce collectif Alerte s'est faite sur la base d'une demande d'une loi d'orientation de lutte contre la pauvreté. C'était une espèce de pression sur le gouvernement. Et de fait, tous les candidats qui avaient été interpellés ont dit « Bien sûr, on va faire ça quand on sera élu ». Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé.
Comme le rappelle Daniel Fayard, en charge des archives au centre ATD Quart-Monde, la pauvreté s'invite dans le débat télévisé entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Nous sommes en 1995 et nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle.
Je suis frappé de l'idée qu'il y a deux France qui s'écartent. Je ne pense pas que ce soit une fracture, parce qu'une fracture, au moins, c'est net, ça ne bouge pas et on la réduit. Là, il s'agit plutôt d'une faille. Moi, je ne veux pas que ces deux France s'éloignent. Et donc, ce qui me préoccupe en particulier, c'est qu'une bonne partie des hommes et des femmes de ce pays qui vivent de leur travail ont peur de voir leur ascension sociale bloquée, ont peur de voir l'avenir de leurs enfants moins bon que celui qu'ils ont connu, ce qui serait une rupture dans notre histoire depuis la libération. Il faut répondre à cette crainte et il faut agir dans un certain nombre de domaines.
Après le point de vue du candidat Jospin, celui de Jacques Chirac, la fracture sociale est le thème fort de sa campagne.
C'est vrai qu'il y a deux France. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France est de plus en plus taxée pour permettre d'aider les premiers. C'est un système diabolique.
Jacques Chirac est élu président de la République le 8 mai 1995. C'est alors que le Conseil économique et social mandate Geneviève de Gaulle-Anthonioz, nièce du général et présidente d'ATD, pour évaluer les politiques publiques de lutte contre la grande pauvreté mises en place depuis la parution du rapport Wresinski.
Chirac, après son élection au président de la République, il avait dit que ce combat contre l'exclusion et la pauvreté devait être au cœur de toutes les politiques et à la tête de la politique. Évidemment, après, il faut faire.
Bonjour. Mercredi 25 mars, l'emploi, le logement, le surendettement, le projet de loi contre l'exclusion sera présenté ce matin au Conseil des ministres. Nous allons en parler dans ce journal et sur France Inter, la présidente d'ATD Quart-Monde, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, sera notre invitée de 8h moins le quart à 9h.
Le projet de loi contre les exclusions constitue l'un des trois volets du programme de lutte engagé par le gouvernement. Deux autres projets vont suivre, l'un sur l'AMU, l'assurance maladie universelle ou sécurité sociale pour tous, présenté à l'automne, l'autre sur l'accès à la justice et la citoyenneté.
Tout ça, ça va ensemble. C'est pas uniquement des mesures d'assistance. C'est beaucoup plus que ça. C'est la réintégration dans la société de chaque être humain. Avec, comme j'ai dit tout à l'heure, son égale dignité. Mais ce plus important, c'est que le regard change. Et pas seulement le regard des administrations, mais notre regard à tous, à chacun de nous. Nous devons tous changer ce regard. L'enseignant, il faut qu'il comprenne que son petit élève, eh bien, s'il perd toutes ses chances à l'école, ça sera fini pour lui de la vie. Et puis le médecin qui va soigner une famille, c'est la même chose. Et puis les parents d'élèves, c'est pareil. C'est à nous tous à changer le regard. C'est vrai que c'est un énorme projet et que cette loi que nous avons beaucoup attendue, nous n'en attendons pas non plus des miracles. C'est à peine un début, hein.
C'est un début pour lutter globalement contre l'exclusion, véritable processus de marginalisation. Après le revenu minimum d'insertion en 1988, la loi de 1998 favorise l'accès à la citoyenneté. Écoutez comment un volontaire d'ATD défend cette loi devant les militants du Quart Monde venus témoigner de leur situation.
Quand on sort de l'hôpital ou d'un centre d'hébergement, on se retrouve dans un logement où il faut se débrouiller pour payer son loyer, les factures d'eau et d'électricité. Au début, on a besoin d'être aidé pour pouvoir y arriver seul ensuite.
Avec cette loi, il y a une volonté quand même du pays d'en finir avec l'exclusion. Et ça, il faut bien le mesurer. Alors c'est sûr qu'on ne le voit pas encore maintenant, puis il ne suffit pas de le mettre dans une loi pour que ça se fasse, mais il faut savoir quand même que derrière, il y a vraiment cette volonté de venir à bout de l'exclusion. C'est quand même vraiment dire que tout est lié dans la vie et qu'il faut avancer sur tout ça en même temps pour en sortir. Je crois une chose aussi qui est importante dans la loi, c'est qu'on parle de droits. Hein. Le début de la loi, il parle des droits fondamentaux dans les domaines du logement, de l'éducation, de la santé, de la famille, enfin tous les domaines énumérés ici. Donc cette loi, elle apporte ça aussi, elle apporte aussi de dire la lutte contre l'exclusion, c'est un combat pour les droits, c'est une question de droit, et ça, c'était pas inscrit dans la loi jusqu'à présent.
La lutte contre l'exclusion passe par l'accès aux droits. C'est un acquis de la loi, renforcé en 1999 par l'accès à la santé pour tous. C'est la couverture maladie universelle.
France Inter. On a toujours dit que la sécurité sociale était un droit pour tout le monde en France, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les plus défavorisés en savent quelque chose. Le gouvernement a donc fait voter une loi en juillet qui assure la couverture sociale pour tous. C'est la CMU, couverture maladie universelle, qui va entrer maintenant dans sa phase concrète. Au 1er janvier prochain, elle existera dans les faits.
Je me souviens que ma fille est tombée gravement malade. On avait besoin de feuilles de soins supplémentaires. Et on m'a dit, il faut une lettre de votre médecin traitant qui justifie ses soins. Donc je demande à mon médecin qui me fait la lettre, qui me la donne. Je l'amène à cette secrétaire qui l'ouvre, qui lit tout haut ce qui est écrit dans cette lettre. Et qui me dit, oh, vous êtes sûr qu'elle en a réellement besoin? Et je vous jure, la CMU, elle a changé ça. Elle a changé le fait que j'ai eu le jour-là envie de tuer cette bonne femme devant moi. Je me suis retenue. Parce que j'avais besoin de ça. Mais je... Ouais, encore aujourd'hui, j'en pleure quand j'en parle, mais c'est très difficile de devoir justifier de faire soigner ses enfants. De devoir justifier, de dire, mais ils sont malades, ils ont besoin de soins. Vous croyez qu'on s'amuse? Vous croyez que c'est amusant? La CMU, elle a changé ça. Aujourd'hui, on sait qu'on peut aller voir un médecin. Bon, on est plus ou moins bien soigné, mais on sait au moins qu'on peut y aller, qu'on n'a pas à justifier d'être malade ou pas, qu'on n'a pas à... Enfin voilà, moi la CMU, elle a changé ça dans ma vie. Elle a changé, je vous dis, l'humiliation de ma vie. Elle m'a permis de relever la tête.
Et c'est une nouvelle bataille gagnée pour le peuple de la misère. Car ce que Marie-France Zimmer exprime avec ses propres mots, c'est ce que le sociologue Serge Pogam a théorisé avec son concept de disqualification sociale.
En utilisant le concept de disqualification sociale, je voulais mettre l'accent sur le processus qui conduit justement des personnes qui s'adressent à des services d'action sociale à faire l'expérience vécue d'un rejet social. Ce qui est assez paradoxal parce qu'elles viennent pour être aidées et en même temps elles en ressortent avec l'idée qu'elles sont finalement indésirables ou qu'elles sont moins que les autres ou qu'elles ont beaucoup de défauts. En fait, dans le processus d'aide, il y a un processus qui conduit à être rejeté ou à être vraiment, d'où l'expression, disqualifié.
D'où l'importance de la méthode initiée par le père Wresinski à partir de sa conviction profonde. Si la misère est l'œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire.
La CMU, ça s'est passé à l'initiative d'ATD. On s'était réunis, on réfléchissait à comment on pouvait se faire soigner, comment on pouvait vivre décemment, comment on pouvait faire les choses. Il y a eu la loi de 98. Cette loi de 98, on l'a travaillée avec le gouvernement. On a fait des amendements. On l'a étudiée de A à Z. Je vais vous dire, on a mis 5 ans à l'étudier, je crois, cette loi, pour tout comprendre les termes, pour être sûr que ce qu'on voulait, c'était ce qui était écrit dedans. même si après on a eu des désillusions, comme tout. Mais le principal y était. Et oui, c'est à l'initiative d'ATD.
Donc cela veut dire, Amadou Matarembo, que comme l'a toujours dit Vrezinski, c'est important que les pauvres eux-mêmes luttent
contre la pauvreté. Moi, je crois que les pauvres, ceux qui ont frôlé la pauvreté, ou ceux qui ont vécu dans des sociétés de pauvreté, connaissent, je ne dis pas exclusivement, mais connaissent mieux les problèmes de la pauvreté et la façon de surmonter la pauvreté en respectant la dignité des pauvres. Il faut travailler avec eux, les autres aussi, mais il faut travailler essentiellement avec ceux qui sont dans la pauvreté et ceux qui ont connu l'expérience de la pauvreté.
Ainsi s'achève notre documentaire, Le quart monde entre dans l'histoire. Les pauvres luttent pour leurs droits, c'était le second épisode, signé Valérie Nivelon, Marion Lefebvre et Elliot Bourrel. Les deux épisodes sont à réécouter et à partager sur RFI.fr. Un grand merci aux volontaires d'ATD Quart Monde pour avoir mis leur temps et leurs archives sonores à notre disposition. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, écrivez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.